du jazz.
D'hier et d'aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Il y a bien longtemps, c'était en 1889, paraissait dans la presse enfantine française une bande dessinée, ou plutôt un ancêtre de la bande dessinée, qui s'appelait la famille Fenouillard. Cette famille typiquement française arrivait un peu par erreur en Amérique et débarquait en pleine campagne présidentielle. Et pour vous dire à quel point les choses n'ont pas beaucoup changé, il s'agissait de l'opposition de deux candidats qui s'appelaient l'un Blackson et l'autre Fumisti. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'est question que de la campagne électorale présidentielle américaine dans tous les médias et en des termes qui ne sont pas sans rappeler ceux d'il y a 130 ans.
Eh oui.
Nous nous sommes dit donc qu'il était tout à fait le moment de rechercher dans le jazz de quoi faire une émission sur les présidents.
Ben, on va y rajouter aussi les grands de ce monde.
Sans risque de se tromper.
Pas que les présidents, parce que dans d'autres pays, il y a des rois.
Mais le jazz est un pays un peu particulier, qui est beaucoup plus peuplé de rois que de présidents, puisque de présidents, il n'y en a qu'un seul.
Mais les rois, ils sont quoi alors ?
Oh là là, ils sont légions.
Ah bon ?
Oui, parce qu'il y a ceux qui se sont autoproclamés, ceux qui ont été proclamés, ceux dont c'était le nom ou le surnom, enfin il y a de quoi faire, vous allez voir.
Et ceux qui voudraient bien l'être.
Naturellement. Même si nous nous trouvons dans une avalanche de rois, nous allons commencer par le président. Là, il n'y en a qu'un, un seul, unique, il s'appelait...
Lester Young, dit The Prez.
Prez, parce que c'était le surnom que Billy Holiday, qui était son égérie, ça a été une très grande passion, dont on n'a jamais su si elle était purement platonique. Nous ne sommes pas à Radio Cancan.
Non, mais nous, c'est pas le genre des cancans. Donc, on va laisser trois petits points de suspension.
Exactement. Toujours est-il que c'est elle qui lui a donné ce surnom. Et voici le Prez dans ses œuvres. Oui. Lester Young, c'est une école de saxophone ténor totalement opposée à l'école principale, qui était celle de Coleman Hawkins. C'est une manière feutrée et oblique de voir les choses, mais elle n'est pas pour autant désincarnée.
Dans ce morceau...
Je n'ai pas... L'ombre d'une chance, ça c'est le titre.
Oui, traduit en français naturellement. Vous allez voir comme ce président-là est détendu.
Ah ça, il est totalement détendu.
Ils ne sont pas tous comme ça.
Non, ça c'est bien vrai. Mais attention, il est détendu, mais il n'est pas totalement mou, au contraire.
Mm-hmm.
après le Prez, voici les Kings. Alors, naturellement, nous allons nous jeter sur ceux qui se sont autoproclamés roi de ceci ou roi de cela.
Ben, on va parler de Paul Whiteman.
Eh oui, le premier nom qui vient à l'esprit, c'est Paul Whiteman.
Qui, sur toutes les affiches, avait écrit « Le roi du jazz ». Voilà,
Paul Whiteman, c'était le roi du jazz, exactement.
Encore une fois, c'était assez américain de l'époque, hein, s'entend. Parce qu'au milieu de tous ces noirs qui, dont c'était leur musique, lui, il était blanc.
Et son orchestre aussi, d'ailleurs.
Et son orchestre aussi. Et donc, il a été naturellement monté en épingle parce que c'était un blanc qui faisait du jazz.
D'ailleurs, quand Fletcher Henderson a organisé son premier orchestre, son approche médiatique a été le Paul Whiteman noir. Et quand on voit ce que Fletcher Henderson a fait à côté de ce que faisait l'autre, c'est assez étonnant.
Oui, mais il bénéficiait d'une couverture médiatique justement très très grande. Parce que dans ce pays-là, c'était assez sympathique pour certaines régions un peu racistes d'avoir un blanc qui faisait cette musique.
Exactement. Donc le roi du jazz, Paul Whiteman, qui était un gros monsieur à fine moustache, calamistré, brillantiné, gominé, vêtu d'une tenue blazer, genre blazer à rayures. Il pratiquait ce qu'on a appelé à l'époque le jazz symphonique.
Et ça lui a permis, à lui, Whiteman, d'avoir une popularité aussi en Europe.
Exact. Et même des émules, puisqu'en Angleterre, nous avons eu Jack Hilton, par exemple, qui faisait les beaux jours, des balles, et surprise partie, parce qu'à l'époque, ça existait déjà. Et ce Paul Whiteman, il avait quand même du nez, parce qu'il s'est dit, j'ai beau être le roi du jazz, c'est un peu guimauve tout ce que je fais, je vais prendre des solistes un peu musclés. Et il a donc engagé deux copains, qui étaient Bix Beiderbecke et Frankie Trombauer. Alors, c'était également des blancs, mais eux, ils avaient appris chez les noirs. Ils en avaient de bonnes traces. Alors, il y a un disque qui met tout ça en contraste et en perspective. C'est le seul qui soit comme ça, d'ailleurs, dans Paul Whiteman. Sinon, les apparitions sont très courtes. Elle s'appelle...
You took advantage on me. C'est-à-dire...
Vous m'avez bien eu, quoi.
Oui. Alors, je me suis fait avoir, là.
Je me suis fait avoir. Alors, c'est peut-être aussi la moralité de ce morceau.
What's the use of trying not to fall? I have no will. Ah, you made your kill, 'cause you took advantage of me. I'm just like an apple on a bough, and you're gonna shake me down somehow. So what's the use? You cook my goose, 'cause you took advantage of me. I'm so hot and bothered that I don't know my elbow from my ear. Suffer something awful each time you go, much worse when you're near. Here I am with all my bridges burned, just a babe in arms where you're concerned. So lock the doors and call me yours, 'cause you took advantage of me.
Well, C'est coquiné en diable, tout ça.
Ah, on dirait absolument les dessins animés quand on voit Tom et Jerry, bien malgré eux souvent, danser une petite valse bostonnée.
Oui, c'est comme ça qu'on a appris à l'époque ce genre de choses, exactement. Mais je trouve que c'est très bien ficelé, hein, néanmoins. C'est pro.
C'est du boulot pro.
C'est pro, c'est du bon boulot. C'est amusant parce que ces orchestres blancs avaient une section de violon. Il y avait 3 ou 4 que les orchestres noirs n'ont absolument jamais eu. Et là, c'est vraiment intéressant, au milieu de ce disque très sirupeux quand même, finalement. Sympa, mais sirupeux. Hein.
Gentillet.
De voir arriver le cornet de Bix Beiderbecke et le saxo de Frankie Trumbauer en train de dialoguer paisiblement ensemble devant paysage champêtre, et puis passer gentiment la parole après au chanteur Bing Crosby, qui a fait ses débuts chez Paul Whiteman avant de devenir une énorme star.
Bing Crosby, c'était le crooner.
Ah, le crooner. Avant Sinatra. C'est un des 2 grands crooners américains.
Ouais, ouais.
Un autre roi autoproclamé, alors là, plutôt même, je crois, par ses agents publicitaires, c'était...
Benny Goodman. Alors lui, il ne pouvait pas s'appeler le roi du jazz, parce que le nom avait déjà été pris.
Ah oui, beaucoup même.
Alors il s'est appelé le roi du swing.
Exactement. Alors quand même, c'était bien longtemps après le disque précédent. Et beaucoup de leçons avaient été retenues. D'abord, Benny Goodman avait... un très bon arrangeur. Très souvent, c'était Chet Anderson qui lui arrangeait ses morceaux. Ensuite, il avait des bons solistes. Et puis, il avait un batteur qui avait appris à la bonne école et qui s'appelait Gene Krupa. Alors, évidemment, c'est un peu étonnant de voir un grand orchestre en pleine période dite swing, un grand orchestre blanc comme Benny Goodman, qui est pas mal, mais bon, s'appelait le roi du swing, alors qu'à la même époque, il y avait Duke Ellington, Count Basie, Jimmy Lunsford... pour ne parler que des 3 plus connus, qui étaient sur le marché. Mais c'était comme ça, c'est l'Amérique, c'est la pub, et puis ça nous est bien tombé dessus après, nous autres, la pub. Hein.
Tout à fait. Puis, il faut se souvenir qu'il y avait des problèmes matériels qui faisaient que ces orchestres étaient composés que de blancs. Parce qu'à cette époque-là, dans certains endroits, c'était encore difficile d'aller dans un hôtel où il y avait à la fois des blancs et des noirs.
Ah ben attends, il n'y avait aucun orchestre mixte, aucun big band mixte. Et par exemple, les Sweethearts of Rhythm, qui étaient un big band féminin noir, avaient 2 blanches et 2 asiatiques dans leur rang. Et les blanches se taignaient, hein, et les asiatiques aussi.
Oui, parce qu'autrement, elles n'auraient pas pu aller avec les copines à l'hôtel.
Et par exemple. Alors, pour en venir à Benny Goodman, quand même, la star de l'orchestre, c'était son batteur. Gene Krupa, qui était un Chicagoan, qui avait appris à la grande époque de Chicago où les Noirs du Sud avaient établi leur capitale, finalement, musicale. Et ce Gene Krupa est très en vedette dans un morceau qui est devenu très populaire à l'époque, qui s'appelait...
Sing, sing, sing. C'est... ce qui veut dire chante, chante, chante.
Voilà, c'est tout bête, hein. Ce que vous venez d'entendre est extrait d'un concert qui a été donné au Carnegie Hall, et c'est un concert qui a été historique.
Et oui, parce que le Carnegie Hall, c'est le temple de la musique classique jusqu'à maintenant.
Là, ce concert-là était historique parce que c'est la première fois qu'un orchestre de jazz s'y faisait entendre. Et c'était celui de Benny Goodman qu'on a entendu jouer de la clarinette dans le morceau.
Donc, effectivement, c'était un orchestre blanc, mais qui jouait quand même une musique noire.
Aucun doute. D'ailleurs, peu de temps après, les fameux concerts Spiritual to Swing organisés par John Hammond ont fait pénétrer dans le Carnegie Hall le gratin de la musique noire. Mais là, c'est quand même la première fois que le jazz s'y faisait entendre.
Alors, il faut voir ce que c'est que le Carnegie Hall. Hein. Voilà. Tu y es allé, Laurent.
J'y suis allé. C'est une architecture néoclassique extrêmement rigide, pesante, solennelle. Il y a une solennité dans ce lieu absolument incroyable. C'est immense en plus. Là, le Carnegie Hall, c'est vraiment le monument dédié au classique. Et ce jour-là, le 16 janvier 1938, dans les coulisses, l'atmosphère est électrique. Les musiciens ont une trouille bleue de se retrouver sur cette scène mythique, hantée du plancher jusqu'au cintre par l'écho des plus prestigieux interprètes classiques. « Je me sens comme une pute entrant dans une église », lance résigné Harry James en pénétrant le premier sur scène. Le concert sera un triomphe. Ça, c'est vrai. Ça, c'est comme ça qu'un journaliste de l'époque a raconté l'épisode. Et maintenant, place aux rois qui ont été proclamés rois par leurs collègues.
Il faut savoir que ce nom de roi à la Nouvelle-Orléans, ça avait une vérité, je dirais pas historique, mais vous savez qu'il y avait un roi du carnaval.
Ah oui, le roi des Zoulous.
Le roi des Zoulous. C'est quelque chose qui est beaucoup dans la tête des gens qui viennent du Sud, le roi. Ce roi du carnaval qui était déclaré roi par toute la foule.
Absolument.
Et au fond, c'était quelqu'un qui était un roi élu, vous voyez.
Exact.
Et ce King Oliver dont on va parler, eh bien, on peut vraiment dire qu'il a été élu par la population king.
Enfin, élu.
Non, mais façon de parler.
C'est
mais...
devenu comme ça, quoi. C'est voilà. Surnommé, c'est son surnom.
Mais lui, il ne s'était pas autoproclamé du tout.
Ah, pas du tout.
C'est l'environnement qui l'a nommé.
Lui, il s'appelait Joseph. Il était maître d'hôtel dans une maison bourgeoise de riches blancs. Et ben, il faisait de la musique le soir. Hein, et c'était un très, très grand musicien. Et plus tard, naturellement, il a fini par ne plus faire que de la musique. Et en plus, il aimait beaucoup arranger. Et il arrangeait de manière absolument délicieuse, en particulier les ensembles de saxophones qui, à l'époque, étaient relativement réduits, ils n'étaient que trois. Et nous avons extrait de l'œuvre de King Oliver un morceau peu connu, très, très mélodieux, comme ça, justement. Dans cet orchestre, King Oliver avait engagé comme deuxième trompette son neveu Dave Nelson. Et on les entend, tous les deux, dans ce morceau, l'oncle répondant à la trompette bouchée au neveu, qui joue ouvert juste avant lui, est vraiment... La manière dont King Oliver répond, c'est une véritable merveille. Thank you. C'est pas délicieux cette façon d'arranger les trios de saxo, hein ?
Ah, c'est vraiment joli. Voilà.
Puis quand on trompettiste. Voilà. Alors, c'est. Quelqu'un disait de ce genre de morceau, ah, ça, ça rince l'oreille. Un autre king, proclamé par ses collègues, lui, il était pianiste et il s'appelait Nathaniel Adams Cole.
Et il avait vraiment une attitude, une allure de king.
Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Puis alors.
Imaginez un grand type aux cheveux noirs de jais.
Ah oui.
Et qui avait vraiment une allure royale.
Ah oui, oui, tout à fait. Oui, c'est un très beau mec, hein, ça c'est sûr. Oui. Et il a été surnommé King, c'est venu, je pense, tout seul comme ça, comme pour King Oliver. Et c'était un très très grand pianiste. C'est un des plus grands pianistes qu'il y a eu dans le jazz. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que ça a totalement été éclipsé par son succès comme crooner. Parce qu'un beau jour, paraît-il, dans une boîte de Californie, où il faisait du piano en trio, un client...
Pas commode.
Passablement éméché et ayant les moyens, a exigé qu'il chante. Alors, King Cole,
il aurait fait un scandale. Il avait déjà commencé un scandale,
oui,
ce client.
Exactement.
Tu m'as chanté.
Voilà. C'était vraiment le cochon de payant intégral, mais enfin, dans ce cas-là, t'es pianiste, t'es pro, hein, et puis tu fais ce
qu'on te demande.
Voilà. Et donc, King Cole, au lieu de se contenter de jouer, il a chanté aussi. Je crois que c'était Sweet Lorraine. Et alors, ça a eu un succès. Tout de suite, les gens qui étaient là ont réagi. Ça a incité à faire un disque avec pour essayer, un succès monstrueux. Et il est devenu beaucoup plus connu comme chanteur que comme pianiste. Et c'est tout à fait injustifié. C'est un très, très grand pianiste. Et c'est un bon chanteur aussi.
Oui, oui, mais c'est un bon chanteur quand même.
Un des tubes de King Cole, ça a été l'équivalent de notre chanson qui s'appelle National 7, tu sais. National 7. C'est le voyage par la route mythique 66. La route 66 est une route qui fait rêver. Elle va de Chicago à Los Angeles, en passant par Saint-Louis, en passant par le Texas, en passant par le Nouveau-Mexique.
Au fond, c'est une route d'émigration.
Ah, tout à fait. D'ailleurs, elle est jalonnée de haut lieu du jazz, cette route, parce que, en particulier, l'endroit où elle croise le Mississippi à Saint-Louis, il y a une énorme résonance. Elle passe par le Kansas aussi. Bref, c'est la route qui sert aussi au Harley-Davidson. C'est la route que tout le monde a envie de faire, y compris moi.
Il y fait très chaud, par contre.
Et ça a été le premier très grand tube de Nat King Cole. Là, il en a vendu des millions. Maintenant, un bon conseil de la planète du jazz. Get your kicks on Route 66.
If you ever plan to move west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City, look mighty pretty, you'll see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino, aren't you? Get hip to this timely tip. When you make that hell out on your trip, get your kick on Route 66. Thank you.
that hair out from on your trip. Get your kick on Route 66. Get your kick on Route 66. Get your kick on Route 66.
Et maintenant, nous allons quitter la route nationale
pour aller à la campagne,
et sur les petits chemins poussiéreux, et rejoindre un chanteur de blues qui s'appelait Solomon Hill et que ses collègues avaient appelé King.
Oh, ça, c'était généreux.
C'était généreux, ça. En fait, c'était un disciple de Blind Lemon Jefferson, je trouve qu'il lui ressemble beaucoup. Et ensuite, j'ai un secret, vous ne le savez pas encore. Non, c'est pas que j'aime les gens, ça, tout le monde le sait, mais en fait... Je vous en prie, madame, s'il vous plaît. Mais en fait, il s'appelait Joe Lee Williams. En tout cas, il est connu sous le nom de King Solomon Hill. Et là, c'est un morceau pathétique qui s'appelle
Tell Me Baby. Pour un homme, il a une voix de femme quand on l'entend.
C'est vrai, mais il y a quelques chanteurs de blues comme ça qui, finalement, sont des sortes de haute contre.
Ou ils chantent en hauteur, ou alors c'est leur voix.
On pratique la voix de tête quand même un petit peu. Sonny Terry est un des exemples de ça, celui qui jouait également de l'harmonica. Il se répondait à l'harmonica presque sur le même registre. Et là, c'était la caractéristique de King Solomon Hill. Comme nous sommes dans le blues, vous allez naturellement me dire « Mais maintenant, vous allez passer Bibi King !» Eh bien non, nous ne passerons pas à Bibi King, puisque King, c'était son vrai nom. Nous, on s'occupe aujourd'hui des surnoms des proclamés, des, hein, mais pas de ceux dont c'est le vrai nom quand même. Hein. B.B. King s'appelait en réalité Riley King, et B.B. ça veut dire Blues Boy.
Ah d'accord.
Voilà. En revanche, il y a un autre King qui s'appelait en réalité Fred Christian et qui est connu sous le nom de Freddie King.
King.
Il est un peu considéré comme un artiste mineur, mais quand même, ça vaut le coup de l'entendre.
Il va nous jouer et nous chanter Woman Across the River.
Encore une histoire de femme. On n'en sortira pas.
C'est du bon.
Show how much she cared, but the man told so many lies. Now another man is over there. That woman across the river, sweet woman across the river, she was mine, she was mine. Yeah. Word got around that he had jilted her. Such a fool, I never, 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 never know. But the man has got her now. He's a lucky so and so. That woman across the river, sweet woman across the river, she was mine. Let me tell you, she was mine, Lord.
Et là, ben, c'est un style différent maintenant, puisque on y retrouve les questions-réponses qu'il y a dans les gospels. C'est un style un peu soul quand même.
Tout à fait. Le soul est passé par là. Il a un peu suivi la mode. Il a pris un batteur dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne m'a pas tué.
Par contre, il y a la guitare électrique.
Ah oui, là, il joue magnifiquement de la guitare, ça c'est sûr. Et justement, comme il joue dans le style du grand chef de file des guitaristes de blues électrique, hein, qui est B.B. King, on peut penser que c'est pour ça qu'il tient à ce nom de King. Ce qui nous mène à un autre musicien.
Albert King.
Qui lui s'appelait en réalité Albert Nelson. Et qui lui est un bon chanteur, mais un guitariste superlatif. Dans un style très voisin de celui de B.B. King.
Et celui-là va nous jouer un titre un peu particulier, Howling for my darling.
En hurlant pour ma chérie.
Oui, on espère qu'elle n'aura pas trop peur.
Ben, vu le physique du bonhomme, c'est pas évident.
Hot as red pepper, sweet as a cherry pie. I'm so glad she loved me all the time. Cutest maiden, baby, sweet as she can be. A
all that love she got, it belongs to me. If she hear me howling, calling on my darling, well, she kiss me every morning, make the lights go out. Early in the morning, she makes me jump and shout. That bad love she got makes me really try, makes me really know I'm too young to die. When you hear me howling, calling on my darling. Lights go out early in the morning. She makes me jump and shout. That bad love she got makes me really try, makes me really know I'm too young to die. If you hear me howling, calling on my darling, well, she caught his red pepper, cute as a cherry pie. I'm so glad she loved me all the time. Cutest, famous baby, sweetest she can be. All that love she got, it belongs to me. When you hear me howling, calling on my darling.
Voici un autre King, celui-là est au saxophone ténor.
King Curtis.
En réalité, bon, King c'est son surnom comme beaucoup d'autres. Curtis c'est son prénom. Son vrai nom c'est Curtis Housley, tu vois. Et ce King Curtis, c'est un saxophoniste ténor qui a beaucoup influencé ses successeurs dans l'instrument. Malheureusement, il est mort jeune parce que je crois qu'il avait 36 ou 37 ans. Il a été assassiné. Purement et simplement, madame.
Et au cours de...
Ben, j'ai plus ça en tête, mais je pense que autour des musiciens beaux mecs, comme c'était une fois de plus le cas, il y a quelques demoiselles qui s'agitent et qu'il peut y avoir aussi des dames avec des maris et des maris pas contents. Alors je crois que ça s'est passé comme ça. En tout cas, le pauvre King Curtis, il est mort à 37 ans, c'est quand même pas très marrant.
Ben oui.
Mais qu'est-ce qu'il jouait bien, ça c'est sûr. Et alors on l'a invité en Europe et on a eu l'idée au Festival de Montreux de le marier. Avec,
si on peut dire.
Oui, parce que quand on pense à l'autre. Avec un pianiste et chanteur de blues qui s'appelait Jack Dupré, qui était de la Nouvelle-Orléans.
Eh oui, alors Dupré, vous savez, à la Nouvelle-Orléans, c'est relativement courant. Hein, c'est un nom parfaitement français, qu'on prononce par contre Dupré.
Dupré, mais naturellement. Alors ce Jack Dupré, il était installé en Europe, où il a passé toute la dernière partie de sa vie.
On l'appelait même Champion.
Parce que c'était un ancien boxeur. Et en fait, il était connu sous le nom de Champion Jack Dupré. C'était un type assez étonnant à voir, quand même. Et ce Champion Jack Dupré, nous avons eu, quand nous étions de jeunes gens, l'occasion de le rencontrer souvent, parce qu'il chantait très bien. Il jouait du piano dans un style un peu rustique, mais très sympathique. C'était un type chaleureux, qui parlait un peu français, bien sûr, puisqu'il était créole à Nouvelle-Orléans. Il avait un physique quand même assez étonnant.
Imaginez un de ces noirs à peau très très claire, café au lait très pâle, avec des yeux clairs. Et un diamant dans l'oreille. Et une figure de vrai pirate.
Ah oui, ça, il avait une tête de pirate extraordinaire. Et quand il chantait, quelquefois, il ne mâchait pas ses mots, d'ailleurs. Je me souviens qu'il... C'était un type qui avait beaucoup de caractère, d'ailleurs. Pour être boxeur et se faire surnommer champion, ça veut dire quand même qu'on a gagné d'autres choses.
Oui. C'est une vraie personnalité.
Il faut du caractère. Et bien, l'idée de ces organisateurs du Festival de Montreux, donc, a été couronnée de succès. Et en voici un extrait. King Curtis au ténor, Champion Jack Dupré au piano. Et il chante...
I'm having fun. Ah, je me suis bien plu.
Ah oui, ça, je me suis bien plu. Ben, nous aussi, d'ailleurs.
Ah. break of day. I can hear you calling, you know I'm on my way. I ain't got no money, no one won't let me know. I ain't got no money, no one won't let me know. Well, I'm still right here, babe, you know I'm having fun. Well, the woman I love, she takes my appetite. Well, the woman I love, she takes my appetite. She's the sweetest woman I ever seen in my life. She got a face like a monkey, hair like a teddy bear. She got a face like a monkey, hair like a teddy bear. She's the ugliest woman that I've ever seen anywhere.
Et là, c'est vraiment pour la danse. Hein.
Ah oui, il n'y a pas de doute. Et c'est très curieux de penser que, en fait, ça a été joué pour des gens assis. Moi, j'aime... D'ailleurs, je vais dire, le concept de concert de jazz, moi, ça me gonfle. Personnellement, je t'avoue que pour moi, le jazz, c'est la danse. Et quand on joue pour des gens qui dansent, c'est vraiment très agréable, beaucoup plus que le concert.
Mais il y a des endroits où, très intelligemment, les organisateurs ont mis un espace danse.
Oui.
En même temps que le concert.
Et si vous allez à la Roquebrune cet été, aux environs du 10-15 août, ce que je vous souhaite, car le festival de Boogie Woogie de la Roquebrune, c'est un must, et bien là, il y a un espace pour les danseurs. Il y a un grand espace pour que les gens puissent danser.
Oui, oui, les amateurs.
Et voilà,
dansent.
Exactement. Et ça, c'est bien. Et justement, à propos de Boogie Woogie, habile transition, voici le King of Boogie Woogie, Albert Ammons. Alors, c'est Albert Ammons, le King of the Boogie Woogie, il a aussi pratiqué le boogie orchestral. Et le boogie orchestral, c'est le boogie, on dit c'est le piano. C'est, ah, orchestral, c'est pas mal non plus parce que les gens jouent le jeu et ils s'adaptent au boogie avec les instruments donc classiques. Et là, on a affaire à des orfèvres en la matière. On a de très grands musiciens. On a le trompettiste Hot Lips Page, le trombone Vic Dickinson, le ténor Don Byas, le batteur Sidney Catlett. Alors, c'est une formation de rêve autour d'Albert Ammons. Et comme ils sont plusieurs, ils font une jam et ça s'appelle naturellement
Jamming the Boogie. Thank you.
naturellement, au milieu de tous ces rois proclamés, autoproclamés, surnommés ou ce qu'on voudra, il y a le vrai roi. Lui, il ne s'appelle pas King, justement. C'est pas la peine. Tout le monde sait que c'est le roi du jazz. Et c'est naturellement...
Louis Armstrong, bien sûr. Mais d'ailleurs, il a été vraiment roi, car il a été roi des Zoulous. Alors, il faut savoir ce que c'était que le roi des Zoulous.
Ah, d'abord, il était élu, hein.
Oui, déjà. Ça se passe à la Nouvelle-Orléans, naturellement. Et la personne qui est nommée roi des Zoulous est habillée comme un Zoulou.
Et comme un roi Zoulou.
Comme un roi Zoulou, c'est-à-dire avec la peau de panthère et un petit calot de panthère.
Tout bien ce qu'il faut et tout ça, naturellement, c'est le roi du carnaval.
Bien sûr, et il est promené sur un char au milieu des acclamations monstrueuses de tout le monde. Et effectivement, c'est à la fois comique, c'est à la fois une parade, mais on ne prend pas comme roi des Zoulous n'importe qui.
Oh que non.
Oh que non.
Oh que non. Et le morceau que nous avons retenu pour Louis Armstrong aujourd'hui, il l'a composé en dormant.
Et oui, ça arrive quelquefois qu'on fasse des trucs très intéressants en dormant.
Voilà.
Il se réveille et il dit à sa femme, « Oh, dans mon rêve, je jouais un morceau formidable. » Elle lui dit, « Mais note-le, malheureux !»
Mais c'est qu'il ne voulait pas se lever. Et finalement,
mais
je crois,
elle avait le sens des affaires.
Elle avait le sens des affaires et une certaine autorité. Et donc, elle l'a sorti du lit. Elle lui a donné de quoi écrire. Il a noté le morceau. Et puis après, ils se sont recouchés.
Voilà.
Ce morceau s'est appelé plus tard à cause des paroles qu'il a reçues.
« Someday you'll be sorry. » Ce qui veut dire, un de ces jours, tu vas le regretter.
Yeah. C'était La Planète du Jazz.
À la planète prochaine.